Bonjour à tous. Donc, nous allons parler aujourd'hui avec Édouard Closco et Thierry Cardinet de l'amour des elfes. Donc, en soi, c'est quand même un vaste sujet, puisque les elfes, déjà, il y a eu plusieurs versions. Donc là, étant donné qu'Édouard et Thierry ont particulièrement travaillé sur l'encyclopédie des elfes que vous avez là, aux éditions Le Pré au Clair, nous allons surtout nous concentrer sur les elfes dans Tolkien. Donc, pour commencer, bien, je vais peut-être laisser Édouard et Thierry se présenter.
Alors, bonjour tout le monde. Donc, moi, je suis linguiste de formation et ça fait une petite vingtaine d'années que je m'occupe à étudier, à promouvoir le monde de Tolkien, donc un auteur anglais qui aujourd'hui a acquis une grande célébrité. Ça serait bien si quelqu'un récupérait le gamin qui s'amuse devant moi.
Mais c'est un elfe.
Oui, oui. Et donc, il y a une petite année de cela, un petit peu plus d'un an, donc j'ai publié au Pré au Clair un ouvrage qui s'intitule « L'encyclopédie des elfes », d'après le monde de Tolkien, parce qu'effectivement, il y a aujourd'hui un grand nombre d'auteurs qui utilisent ce terme de « elfe » et qui renvoie à chaque fois à des entités qui peuvent être très différentes. Voilà. Donc c'est...
Alors, moi, je suis Thierry Cardinet, je suis illustrateur...
Ah ben, j'en ai un aussi.
Donc...
Sors-le.
Un, deux.
Il marche. Bon, voilà. Donc, j'étais illustrateur polyvalent, on va dire, depuis 25 ans à peu près. J'ai un petit peu travaillé dans la presse, la presse magazine aussi, dans la décoration. Et puis, mon association, ma collaboration avec Édouard, ça a été vraiment ma première plongée dans l'univers de la fantasy réelle. Même si je m'y intéressais comme ça d'un point de vue personnel, je m'étais jamais frotté à, et encore moins à l'univers de Tolkien, qui est un univers très très à la fois très complexe, très très profond et aussi extrêmement précis. Voilà.
Alors, comme les deux auteurs que nous avons là ont bossé sur la thématique de Tolkien, je pense que le plus simple, ce sera de voir d'abord avec Édouard définir ce que sont les elfes dans Tolkien, parce que le sujet a été très très galvaudé au fil du temps. On a vu tout et rien, et donc je pense qu'avant de commencer, il faut quand même en avoir une définition assez précise. Donc je pense que tu dois pouvoir nous dire ce qu'il en est.
Je vais essayer d'être bref et concis, parce que le sujet effectivement est très vaste. Donc, Tolkien a créé donc un univers secondaire, comme il l'appelle lui-même, donc, et à l'intérieur de cet univers qui ressemble beaucoup au nôtre et qui est ce qu'on appelle une uchronie fantastique, c'est-à-dire un passé imaginaire de notre Terre, a décidé qu'au lieu d'avoir une seule race dominante sur la planète comme aujourd'hui, eh bien, il y en aurait plusieurs, et en fait, il y aurait deux races sœurs, qui seraient donc les humains et les elfes, qui ont été donc imaginés ou créés plutôt donc par une entité supérieure qui serait la même divinité que pour les religions monothéistes. Et que donc, au lieu donc d'avoir une seule race, nous en aurions deux, une qui s'appellerait donc les humains, que vous connaissez bien, et une autre qui serait les elfes. Donc la principale distinction qu'il y a entre les elfes et les humains, c'est que les elfes sont liés au monde, c'est-à-dire qu'ils sont d'une certaine manière immortels, non pas immortels à la manière des vampires, mais immortels du fait qu'ils sont liés à la destinée du monde, alors que le destin des humains est d'aller rejoindre Dieu à la fin, disons, de leur cycle. Donc voilà la grande thématique. Donc les elfes, physiquement, sont extrêmement proches des humains. La grande différence, c'est leur beauté physique. Mais en dehors de cela, les caractéristiques elfiques sont exactement les mêmes. Ils sont... éventuellement, selon les époques où Tolkien les a écrits, un petit peu plus petits ou un petit peu plus grands que les humains. Voilà, dresser très très rapidement, disons, les particularités des elfes dans le monde de Tolkien.
Merci. Alors, je pense qu'il serait intéressant de voir, parce que quand on parle de l'amour des elfes, il y a plusieurs thématiques qui peuvent se dégager. La première, c'est l'amour que certains auteurs ou lecteurs peuvent porter à ces créatures, mais également l'amour entre ces créatures, puisque Tolkien a été assez évasif sur la question. Donc, je pense que je vais commencer par demander à Thierry. Je crois que tu n'as jamais travaillé sur des ouvrages de fantasy avant de travailler sur le livre d'Edouard. Et donc, de quelle manière ça s'est passé pour toi, pour la découverte réelle de ces personnages ?
Alors, moi, j'avais découvert les elfes de Tolkien à la première lecture que j'avais eue adolescent du Seigneur des Anneaux. Et puis, c'est une lecture qui était assez lointaine. Et je n'imaginais pas un jour me plonger en tant qu'illustrateur dans cet univers-là. Donc, Edouard m'a en même temps tout de suite mis à l'aise en me disant « Sois libre et après, je te dirai s'il y a des détails qui clochent, je te corrigerai Manu Militari s'il le faut, mais sens-toi libre de te lâcher, de faire d'aller dans ta fantaisie et d'amener ces elfes, ces êtres, ces créatures dans ton univers et les faire jaillir. Parce que moi, j'ai souvent l'habitude, quand je travaille vraiment personnellement des personnages, de les faire sortir d'une tâche, des choses comme ça. Je compose pratiquement jamais mes images et j'essaie d'arriver sans a priori. Donc c'est pas très rationnel. Et ça correspondait visiblement à l'irrationnel du monde des elfes. La manière dont m'avait présenté cet univers par Edouard, ça m'a tout de suite mis à l'aise et un petit peu décomplexé. Parce que j'arrivais quand même après toute une troupe de grands artistes qui avaient posé des bases, qui les avaient tellement posées, qu'ils avaient peut-être figé aussi une imagerie elfique. Et moi j'arrivais là-dedans avec avec des pincettes et avec mes gros sabots en même temps. Et voilà, ça s'est fait comme ça au fur et à mesure pour chaque personnage ou chaque scénette. J'y allais un petit peu à tâtons et puis tout doucement l'elfe apparaissait ou disparaissait d'ailleurs. Et j'étais finalement en prise directe. Au-delà du texte, hein, précisément, avec leur réalité imaginaire.
Oui, parce qu'en plus pour ce livre-là, tu t'es retrouvé associé à Sandrine Gestin et Ted Nasmith, qui ne sont quand même pas deux petits illustrateurs.
Exact. Et puis ils sont pas nés de la dernière pluie. Et puis les elfes, ils maîtrisent ça à fond. Ils peuvent en parler pendant des heures. Alors que moi, je suis absolument ignare ce sujet, à part les grandes lignes, quoi. Mais il m'a semblé, en fait, en travaillant, que je découvrais certains personnages, par exemple, un personnage de méchant comme Morgoth. Je l'ai dessiné sans connaître... Enfin, j'avais vaguement, je ne me rappelais pas comment il s'appelait. Je ne connaissais pas ce personnage du tout. J'étais parti pour faire un elfe, en train de se battre, et en fait, j'ai fait une créature diabolique, un avatar démoniaque. Et le plus troublant, c'est que sur un détail de cette encre que j'avais fait sortir comme ça en une vingtaine de minutes, Edouard a dit, mais il a même sur le gant, le gantelet, l'œil, le symbole. Et j'ai dit, ah bon, alors c'est qui j'ai fait ? Ben là, tu vois, tu viens de faire Morgoth. Ben, vous voyez, ça vous explique comment les choses se sont passées. Pas du tout. Il me disait, s'il m'avait dit, fais Morgoth, il a une couronne de fer et tout. J'aurais cherché à faire une couronne de fer, j'aurais fait quelque chose d'absolument plat et je me serais senti, oh mon Dieu, faut pas que je loupe la couronne de fer. Là, je lui ai fait un truc sur la tête qui était hérissé, qui partait dans tous les sens. Il se trouve que c'était la couronne de fer de Morgoth. Voilà.
Oui, effectivement, tu avais besoin d'avoir la liberté pour pouvoir vraiment réfléchir à ton sujet.
Pour ce travail-là, pour faire quelque chose de personnel. Si on me demande des choses beaucoup plus technique ou voire encyclopédique, mais dans le sens naturel du terme, je peux faire ça. Mais là, il s'agissait. Enfin, j'avais envie de faire quelque chose de vraiment personnel, et c'est la première fois que je le fais dans l'édition pour la fantasy, et grâce à Edouard.
Eh bien, justement, on va en reparler maintenant avec Edouard, en essayant de savoir pourquoi Enfin, comment est-ce qu'il en est venu à parler autant des elfes et à étudier autant, notamment leur langue? Parce que c'est vrai qu'il y a peu d'auteurs à l'heure actuelle qui sont capables d'avoir la même érudition sur le sujet. Et donc moi, justement, je me pose la question de où est-ce que ça t'est venu, cette passion-là pour les elfes?
Alors c'est quelque chose qui a été assez long à mûrir. Je dirais que j'ai lu le Seigneur des Anneaux en 78-79. À l'époque, ce n'était pas un auteur très très célèbre. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, je lisais surtout beaucoup de science-fiction. Donc il m'a beaucoup intéressé, mais sans plus, hein, c'était un auteur parmi d'autres. Et en fait, le déclic est venu à cause d'un déménagement. Enfin, j'ai déménagé avec mes parents aux États-Unis et j'ai découvert en fait Tolkien en anglais. Et là, j'ai découvert un nouvel auteur, en fait, parce que la traduction en française est extrêmement mauvaise. Donc j'ai redécouvert en fait Tolkien en langue originale, et j'ai aussi découvert quelque chose qui à l'époque n'existait pas en français, ce sont des appendices. Le Seigneur des Anneaux comprend un certain nombre d'appendices, dont certains extrêmement précis en rapport avec les langues. Et à cette époque-là, justement, je me tâtais pour les études, quoi étudier. Et finalement, les langues, c'est quelque chose, et la linguistique, c'était un domaine qui m'a toujours intéressé. Et il m'a semblé qu'il n'y avait rien à cette époque-là. Enfin, c'était un domaine complètement en friche. Et je me suis dit, ben voilà, un angle d'attaque qui semble en plus intéresser l'auteur lui-même, puisqu'il le dit dans sa préface, la préface du Seigneur des Anneaux, qu'en fait, tout son monde est né en fait à partir de ces langues imaginaires. Je me suis dit, bon, ben, puisque l'auteur le dit, ben, je vais le croire. Et puis je vais essayer donc de découvrir son monde de la façon dont lui-même la découverte, c'est-à-dire par l'intermédiaire de ces langues construites et imaginaires. Et c'est comme ça que les choses ont commencé pour moi. Au tout début des années 80, dans un petit cahier d'écolier, je me suis dit, tiens, je vais faire un dictionnaire des langues elfiques, et 30 ans après, j'y suis toujours.
D'accord. Thierry, Edouard, je voudrais vous demander, à votre avis, pourquoi est-ce que justement les elfes, en tant que créatures généralistes, et plus particulièrement chez Tolkien, ont vraiment été... finalement un coup de cœur des lecteurs, qui font partie vraiment de leurs personnages préférés, puisque c'est vrai que c'est ce qu'on peut observer de manière générale. L'elfe, en tant que tel, garde une certaine mystique qui attire le lecteur.
Je ne sais pas, alors je pourrais parler pour mon compte personnel. L'elfe, sans être forcément un féru d'imagerie et de littérature fantasy, c'est à la fois un être humain, surhumain, plus ou moins divin aussi, qui à la fois est vulnérable, qui n'est pas invincible, mais qui est quasiment immortel. En tout cas, ça, encore une fois, hein, dans l'imagerie populaire.
Immortel de manière naturelle. Lui.
Voilà. Et il y a quelque chose d'angélique aussi. Alors je ne sais pas si en tout cas, dans notre culture judéo-chrétienne, l'elfe, il n'est pas en rapport avec les anges, enfin, avec l'existence des anges qui seraient incarnés et qui seraient aussi des... On le voit, en tout cas chez Tolkien, dans des guerriers aussi. Tolkien raconte des guerres perpétuelles, hein, entre le bien et le mal. Et forcément, l'elfe, il incarne beaucoup l'esprit du bien, les guerriers du bien, même quand il y a des personnages un petit peu ambigus, quand on commence à plonger, on s'en perçoit que c'est pas si simple, et qu'il y a beaucoup de personnages elfiques qui sont à double tranchant, qui sont ambivalents. Mais bon, je crois que voilà, on a une image de l'ange, du héros lumineux qui combat les ténèbres. Voilà. Et puis qui est en même temps inaccessible aussi, pour nous humains.
Je pense que Thierry a bien défini les différents aspects qui semblent attirer le lecteur. Donc c'est à la fois un personnage qui est très proche de l'humain, et en même temps éloigné. Donc il rassemble, je dirais, pour résumer peut-être une formule, c'est un espèce de vampire positif. Donc c'est un personnage qui a certaines caractéristiques du vampire, mais il n'a aucune des caractéristiques négatives, c'est-à-dire qu'il se nourrit de votre imagination, je dirais. Il se nourrit de l'imagination du lecteur, et donc il a très peu de caractéristiques négatives dans l'ordre de Tolkien, bien qu'il en ait. Hein, ce n'est pas un personnage, enfin en tout cas, la race n'est pas angélique à 100%, loin de là.
Effectivement, et de votre expérience, enfin surtout toi Edouard en tant qu'auteur, de quelle manière est-ce que tu as vu s'exprimer cette passion qu'ont les lecteurs pour les elfes ?
Alors là, je dirais c'est peut-être un petit peu plus problématique de faire une généralisation. Je dirais juste qu'il y a vraiment deux époques très bien distinctes. Hein. Il y a avant et après les films de Peter Jackson. Nous vivons tous dans une société de l'image, avant d'être une société de l'écrit. Et je dirais, avant les films de Peter Jackson, il n'y avait pas véritablement de représentation type de l'elfe tolkienien. Disons, les elfes qu'on pouvait rencontrer étaient principalement des elfes dans des jeux de rôle ou des choses comme ça. Étant donné que Tolkien, justement, a toujours été extrêmement vague dans ses descriptions de ses personnages elfiques, il était extrêmement difficile pour quelqu'un, entre guillemets, de se déguiser en elfe tolkienien. Il n'y a pas véritablement, donc. Et le fait que Peter Jackson a fait un film a fait que des personnes, donc, se sont dit, bah, ça doit être ça. Donc, en fait, je dirais, avant, il n'y avait pas véritablement de volonté de certaines personnes de se représenter en elfe ou de se déguiser en elfe. Ou dans les parties de jeux de rôle, habituellement, les choses étaient extrêmement tranchées. On faisait un elfe de Donjons et Dragons. Il n'y avait pas d'ambiguïté, qui sont assez différents des elfes tolkieniens. Et après les films, donc, on a vu, disons, apparaître des personnages assez types, quoi, c'est-à-dire... Les fans des films se sont mis à copier Arwen pour les jeunes filles et les garçons se sont mis, enfin les jeunes garçons hein, disons se sont mis à copier Legolas quoi. Donc voilà quoi je dirais c'est ce qui me semble en tout cas de l'autre côté quoi quand je vois les représentations personnelles en tout cas les personnes qui disons qui apprécient les films parce que je dirais les elfes tolkieniens sont beaucoup plus complexes et très différents de la représentation extrêmement stéréotypée qu'on voit dans les films. En fait, je dirais que les elfes en fait chez Tolkien ont exactement les caractères aussi différents, et des postures, des envies et des caractères aussi différents que des humains quoi. Donc en fait, mais c'est vrai que je pense que le public a besoin où un certain public, disons plutôt, a besoin de s'identifier à des personnages extrêmement forts, donc, et les deux personnages forts des films, et non pas des romans, sont disons, Legolas et Arwen, pour les personnages elfiques, alors que dans les romans, je dirais que ça serait plutôt Elrond et Galadriel, qui seraient les deux personnages forts. Du roman Legolas effectivement intervient peu, il est plusieurs fois qualifié de jeune elfe, enfin c'est quelqu'un qui a une attitude assez négative envers Gimli au début, enfin il est montré un peu comme quelqu'un qui pense pas beaucoup de choses, enfin il a l'air d'être là comme ça dans l'aventure, il regarde les fleurs pousser, la neige tomber, voilà c'est ça, il a d'autres préoccupations, c'est ça, il est dans son univers, puis bon petit à petit justement il va changer son attitude envers Gimli, et c'est là que je pense que les choses deviennent extrêmement intéressantes. Quoi. Mais c'était difficile de s'identifier à un personnage comme ça qui pouvait sembler à une première lecture extrêmement creux, quoi, ce qui n'est pas tout à fait le cas de Legolas, alors que dans le film, il est véritablement, je dirais, adolescent. Quoi. C'est quelqu'un qui joue, dans tous les sens du terme, quoi, qui joue avec Gimli, qui joue avec les choses qui sont autour de lui, qui exprime beaucoup ses sentiments, voilà, quoi. De la même manière qu'Arwen, quoi, qu'un personnage féminin positif, très, très très différent de l'Arwen de Tolkien. Donc une facilité d'identification de la jeune femme guerrière qui semble être une image extrêmement présente, disons, dans l'imaginaire des jeunes femmes aujourd'hui.
Justement, vu le lapsus que tu as fait tout à l'heure en confondant Legolas et Aragorn, justement, en parlant d'amour des elfes, c'est quand même, au niveau tout du moins des films de Peter Jackson, le point central qui a été développé au cours des trois films, c'est l'amour entre ces deux personnages, dont un est une elfe, l'autre un humain. Mais on aperçoit également, au fur et à mesure des films, et énormément dans les livres, également des couples d'elfes, notamment, je pense, à Galadriel et Celeborn. Et comment est-ce que ça se passe? En fait, Tolkien a toujours été très discret sur les manières sentimentales de toutes les populations qu'il a pu décrire. Et Edouard, est-ce que tu sais déjà pourquoi Est-ce qu'il a eu cette ambition de camoufler tout ce qui se passait intérieurement pour ses personnages? Et sinon, comme tu as eu l'occasion de le lire en anglais, ce qui n'est pas mon cas, comment est-ce que c'est vu au niveau justement de la version anglo-saxonne qui est quand même plus réaliste que les traductions que nous avons eues nous?
Alors je dirais, juste pour revenir rapidement sur les traductions vraiment sont mauvaises. Non pas par, disons, par des changements importants, mais surtout par simplement le choix des mots, le style. Donc je dirais, on retrouve quand même le même texte. Donc mais c'est vrai, tu as tout à fait raison. En fait, dans Le Seigneur des Anneaux, en tout cas, dans la plupart des romans de Tolkien, on n'a pas le point de vue intérieur des personnages. Donc on ne sait pas ce qu'ils pensent, ni leurs sentiments. Enfin, on a très très peu de descriptions de cet ordre-là. Donc je dirais le pourquoi. Alors là, c'est vraiment une vaste question à laquelle j'aurais beaucoup de mal à répondre. Je pense que c'est vraiment un parti pris de l'auteur de ne pas décrire les sentiments profonds et de voir simplement les personnages en action et en fait dans les dialogues. Donc effectivement, l'histoire d'amour entre Arwen et Aragorn est excessivement complexe et il est décrit dans un petit texte à part du Seigneur des Anneaux. Dans le roman lui-même, Arwen intervient une seule fois, enfin disons deux fois, on la voit chez son père à Imladris, et ensuite en fait pour Aragorn elle coud un étendard. Donc effectivement elle a véritablement je dirais une action de soutien moral, on pourrait dire, et non pas de soutien militaire comme dans les films. Donc encore une fois, je pense que je serais bien en peine de dire le pourquoi du choix de Tolkien sur la non-représentation des sentiments intériorisés, en tout cas. Je dirais qu'effectivement, les détails des sentiments des personnages sont décrits dans un seul texte, mais de manière extrêmement froide et, je dirais, quasiment médicale. Qui parle en fait, qui n'a pas été traduit en français ce texte-là, et qui décrit en fait les coutumes de mariage chez les elfes, où là effectivement il est précisé que les elfes se choisissent leur mari dans leur enfance, c'est-à-dire vers l'âge de 50 ans, voilà, et qu'ils s'épousent entre 50 et 100 ans, donc quelque chose de très très jeune pour la vie de quelqu'un d'immortel. Donc voilà, il n'y a pas du tout, disons, on n'a pas d'histoire romancée. On n'a pas une description, par exemple, de la rencontre de Galadriel et de Celeborn. Non. On sait simplement, d'ailleurs, suivant les versions, Celeborn est décrit comme un lointain parent de Fingol, donc le roi des elfes de Beleriand. Puis ensuite, il est dit que c'était un elfe marin, donc il était toujours effectivement parent de Fingol, mais à plus longue échéance. Mais il n'y a pas véritablement de l'histoire d'amour entre Galadriel et Celeborn n'est absolument pas esquissée dans les grandes lignes. D'autres couples d'elfes importants comme Fëanor et sa femme Nerdanel aussi sont décrites de manière extrêmement peu précise. On a quelques petites bribes par-ci par-là. Et effectivement, il n'y a que l'histoire, je dirais, d'Arwen et d'Aragorn qui sont décrits de manière un petit peu plus... Et leur première rencontre, qui est décrite de manière assez précise. Et puis, le fait que ça a pris un petit peu de temps. Et puis, je dirais, quelque chose qui n'est pas du tout expliqué dans les films, c'est qu'en fait, Arwen a un statut assez particulier comme son père. Ce ne sont pas des elfes, en fait. Ce sont des demi-elfes. Donc, ils ont un statut... extrêmement spécial dans la race elfique, donc ça pose encore un surcroît de problèmes dans la mythologie tolkienienne. Donc n'étant pas une elfe, en fait elle a en fait un choix à faire, donc c'est un petit peu, enfin c'est décrit de manière totalement différente dans les films et dans les romans, c'est assez complexe, quoi. Donc leur rencontre implique toute une mythologie du choix, effectivement, et Arwen est obligée, puisqu'elle ne part pas avec son père qui va partir de la Terre du Milieu, donc en fait son choix se résume, soit elle part avec son père, elle reste une elfe, soit quand son père part, si elle ne part pas avec son père, elle change de race, et elle devient humaine, et donc elle est obligée de mourir, quoi, sans précise, disons, il n'y a pas de précision de quand, quoi. Donc dans le roman elle meurt en fait un an après Aragorn, on peut considérer de manière volontaire un peu comme Aragorn, donc soit de chagrin, soit parce qu'elle décide qu'elle ne peut pas vivre toute seule. Donc elle s'en va. En plus, elle abandonne ses enfants, son fils aîné. Elle s'en va dans la Lorienne qui est quasiment inhabitée. Et d'après ce qu'il dit, apparemment, donc, un an après, elle meurt. Comme humaine, donc, et non pas comme une elfe. Voilà.
Juste à vous. Vous avez totalement éclipsé le rapport entre Beren et Lúthien, qui est un rapport quand même vachement important dans toute la mythologie.
Oui, enfin, c'est-à-dire, je ne l'ai pas éludé, mais on m'a posé la question dessus, donc je ne l'ai pas abordé. Oui, c'est une histoire d'amour centrale, mais comme là on était en plein dans Le Seigneur des Anneaux, je voulais pas déborder. Donc ça, c'est une histoire d'amour. C'est la première histoire d'amour entre un elfe et un humain qui fait, qui fait référence à l'histoire d'amour entre Tolkien et donc sa femme Edith, une espèce de transposition de leur histoire personnelle dans le cadre du roman, qu'on retrouve un tout petit peu dans l'histoire d'Aragorn et d'Arwen, puisque Aragorn appelle Arwen Lucienne la première fois qu'il la voit, puisque comme Lucienne, elle a de longs cheveux noirs, et qu'il a l'impression que ce qu'il est en train de voir n'est pas une véritable elfe, mais une apparition. Donc, puisque les ménestrels elfes avaient le pouvoir de faire apparaître dans les esprits des personnes qui les écoutaient les images qu'ils évoquaient dans leur histoire. Quoi. Donc, il a l'impression d'être dans un roman. Donc, c'est quelqu'un qui, enfin, ou dans un roman, dans une vision elfique. Voilà, quoi.
D'accord. Et Thierry, les elfes sont considérés comme des créatures, du moins au niveau littéraire, comme des créatures très belles, pleines de sensualité. Comment est-ce que tu as réussi à dépeindre ça, finalement, quand tu as eu à le faire? Parce que ce n'est pas forcément les choses les plus évidentes. Puisqu'après, il faut que ça corresponde à tes standards, mais également à ceux du public.
Alors, je suis parti de façon instinctive. Hein. Comme je l'expliquais tout à l'heure, j'avais effectivement en tête ces termes-là, de sensualité, de beauté, de mystère aussi. Je sais pas, j'ai pas essayé de penser, alors ça m'aurait vraiment pour le coup complètement bloqué, à ce que le public éventuel, ou le public qui connaît très bien déjà ce monde-là, allait aimer ou pas aimer. Sinon je pense que j'aurais tout de suite laissé tomber. Donc je suis parti comme ça un petit peu à l'aventure moi-même, en découvrant moi-même ce que les couleurs et les formes allaient me donner, et puis les personnages qui allaient jaillir, et parfois ça donnait pas grand-chose. Mais je me suis aussi attaché peut-être à des... J'avais en tête des personnages. Moi aussi, j'avais des visions elfiques de personnes que je connais ou que j'aime et qui sont parfois... qui sont apparues dans certains des dessins, des illustrations. Et c'est comme ça que j'ai peut-être insufflé, je l'espère, quelque chose de ou de sensuel ou d'attirant ou de cocasse, je sais pas, mais ça s'est fait vraiment à l'instinct. Et puis après, je montrais à Edouard, et c'est lui qui avait un petit peu le mot final, qui me disait ah bah oui, ben ça lui parlait ou pas. Moi, j'avais envie que mon premier spectateur, mon premier juge, c'était Edouard. Et puis la liberté qu'il me laissait, ça me donnait encore plus envie de lui montrer à chaque fois que je faisais un petit truc, même si c'était une petite esquisse, de dire bon tiens, qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce que c'est. Voilà. Et c'est pour ça que normalement le travail était terminé, achevé, et les scènes de bataille sont, pour m'amuser, je les ai faites et on les a inclus à l'ouvrage parce que il se trouvait que bon, ben, elles n'étaient pas déplacées et puis elles alimentaient aussi, elles illustraient aussi une partie du récit et l'origine des elfes et de toutes ces guerres parallèles, enfin dans des mondes, ces espèces de trucs complètement vertigineux quoi, quand on a creusé. Mais je ne me suis pas trop focalisé sur le côté. Je pense que, par exemple, Sandrine Gestin, c'est plus, elle, intéressée à l'aspect sensuel des personnages, leur vie intime. Et c'était le volet qu'elle elle avait en charge et sur lequel elle est peut-être plus douée parce qu'elle avait déjà travaillé là-dessus. Donc elle était complètement baignée là-dedans. Moi, je me suis occupé des guerriers. Donc il peut y avoir la sensualité dans la guerre, mais enfin quand même, ça, on y va, bon, c'est une autre affaire.
Oui, c'est un peu plus dur à trouver déjà. Et quel regard jettes-tu sur, finalement, sur le travail qu'ont fait les autres auteurs enfin, les autres illustrateurs du même ouvrage. Parce qu'en fait, moi, en le lisant, j'ai quand même repéré une certaine uniformité. Mm-hmm. Tout correspond finalement à l'idée que je me faisais de ce qu'étaient les elfes, de leur vie. Et en fait, je me suis rendu compte après qu'il y avait trois illustrateurs différents. Donc j'avais bien reconnu le style, effectivement, de Sandrine Gestin, qui est quand même assez mm-hmm. particulier. Mais comment toi les vois-tu, les différentes illustrations ? Parce que moi, j'ai eu du mal à repérer les tiennes par rapport à celles de Tebna Smith, par exemple.
Eh bien, à la fois, je suis content parce que ça prouve que le projet et le fait d'avoir fait travailler tous ces illustrateurs qui ont des histoires diverses finissent par, à la fin, sur le livre, s'accorder. Alors qu'au départ, on a quand même des styles assez différents. Mais je pense aussi que c'est parce que chacun travaillait avec son propre... Son propre background et avec ses racines ou non profondément enfoncées dans la mythologie tolkienienne. Moi, elles étaient pratiquement pas, c'était vraiment des petites racines qui flottaient et qui n'allaient pas très loin. Et depuis, par contre, j'ai découvert et je me suis plongé. Et par exemple, j'ai un regard beaucoup plus critique sur les films de Peter Jackson. Et on parlait de la richesse et de l'invention à propos des personnages elfiques. Je les trouve extrêmement banales par rapport aux descriptions qu'en fait Tolkien. Et la disparité. Il y a un personnage d'elfe traître, là, je ne sais plus comment. J'ai pas son nom en tête. Bon, bah ça c'est. Je sais pas, mais cinématographiquement, je le vois déjà. Enfin, c'est quelque chose qui serait passionnant parce que justement, c'est un elfe qui vacille. On est plus proche presque des personnages des Gardiens des Étoiles qui penchent du côté du sombre de la Force. On voit bien où a été peut-être pêché le père Lucas quand il a commencé à fouiller ces personnages. Il y a tout est là, quoi. Enfin, on a l'impression qu'il n'y a pas. Que tant de films et tant d'histoires ont été influencés par ces récits-là, qu'on on lit pas un livre quand on lit Le Seigneur des Anneaux ou Le Silmarillion, on lit 20-50 livres. Donc c'est effectivement, cette encyclopédie finalement, quand on ne connaît pas, ça peut avoir l'air comme ça d'un livre pour initier, je pense que ça peut aussi être un livre d'initiation pour entrer, dire, on a plein de clés là-dedans qui nous permettent de lire. Maintenant, d'approcher les ouvrages de Tolkien de façon beaucoup plus aisée et sensible. On dit, ah ben oui, voilà, il en parlait là-dedans. Et on va, au contraire, traquer tous les signes qui nous ramènent et qu'on va identifier tout de suite. On n'aura pas besoin de se replonger. C'est vraiment l'outil rêvé, mesdames et messieurs, vous n'êtes pas très nombreux, mais vous êtes là quand même, pour découvrir, redécouvrir ou découvrir Tolkien, qu'on soit ou non passionné déjà par ce monde-là.
Bon, bah merci Thierry d'avoir fait l'article.
Oui, non, je croyais qu'il y avait ça.
Oui, alors j'avais une question qui n'a pas du tout été évoquée, c'est que finalement l'amour des elfes, je pense de mon point de vue, c'est plutôt l'amour qu'il y a entre les elfes et la forêt, et finalement, entre les deux, on a l'impression que c'est indissociable. Si la forêt meurt, les elfes meurent quelque part, même s'ils sont immortels. Vous avez quel point de vue par rapport à ça ?
Alors effectivement, je dirais, dans Le Seigneur des Anneaux, c'est une des civilisations elfiques effectivement que l'on voit, parce que donc, comme l'a très bien dit Thierry, les elfes sont effectivement différents et nombreux, et je pourrais dire qu'il y a effectivement les elfes des villes et les elfes des champs, ou des elfes des forêts. Et donc effectivement, dans une frange de la population qui fait partie donc du troisième clan des elfes, il y a effectivement un amour de la nature en général et une volonté, disons, contemplative. Hein, c'est peut-être cela qui peut peut-être surprendre, en tout cas dans les différentes descriptions, c'est que les elfes qui sont liés à la nature ne sont pas là comme des gardiens. C'est ce qu'essaie de faire Galadriel, mais et là, je dirais, un outil un peu spécial qui est son anneau et qui lui permet effectivement de protéger la Lérienne. Mais dès qu'elle part, par exemple, la forêt redevient une simple forêt. Donc il y a véritablement, je crois, une espèce de symbiose, effectivement. Il y a une volonté d'observer les choses, de vivre avec, Surtout puisque justement les elfes sont immortels, donc il n'y a pas cette, la notion de décrépitude et la notion de changement, et je crois être tout à fait quelque chose qui est intégré dans, la, dans l'esprit elfique et qui est vu aussi quelque chose qui est en dehors. Donc c'est, le temps est vu comme, les saisons sont vues comme quelque chose de naturel et qui passe, et donc en fait l'amour je crois que portent les elfes à la nature, à la forêt, est assez, je dirais, assez inhumain. C'est quelque chose de difficile à comprendre, et c'est peut-être ce qui a fait que c'est aussi un sujet qui m'a intéressé par les langues. Je me suis dit, voilà, une population qui a une approche étrange, qui fait, qui a une, qui a un comportement qui serait peut-être pas forcément humain, peut-être les langues seraient une des manières de les comprendre un petit peu mieux. Et l'amour qu'on voit, par exemple, chez les elfes de la forêt, c'est justement le fait qu'ils aient des capes qui leur permet de se fondre dans, dans l'environnement et qui contraste avec, disons, les vêtements guerriers et de camouflage que portent les rangers de l'Éphilienne. Et là, on voit bien deux comportements différents face à la nature. Donc d'un côté, donc ils ont aussi chacun des cachettes, mais leur comportement avec Frodo est tout à fait différent. Et je crois que c'est peut-être ce qui a motivé, dans les années 60, cette nouvelle conception de la protection de la nature, l'idée de la protection de la nature, puisque les fondateurs de Greenpeace, enfin l'un des fondateurs, parce que je crois qu'ils sont plusieurs, mais malheureusement je ne me souviens jamais de son nom, a dit que l'un des moteurs de la création de Greenpeace a été Le Seigneur des Anneaux, et que c'était un des rares livres qu'ils avaient pris avec eux sur le Rainbow Warrior quand ils étaient partis sur les sites d'essais nucléaires de Mururoa dans les années 60. Et les mouvements des Flower Power aussi, je pense, a été excessivement porté par cet amour qui devait certainement contraster avec l'approche, disons, habituelle de l'homme conquérant face à la nature qui devait être maté, alors que chez Tolkien, effectivement, en tout cas, on voit une civilisation qui cohabite de manière extrêmement, je dirais, intelligente avec l'environnement et qui arrive à survivre, et qui plus est, soi-disant, de manière immortelle. Donc, il n'y a pas de raison qu'elle s'éteigne. Donc, il y avait un côté extrêmement positif, quoi. Ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres civilisations qui peuvent voir la forêt en même temps comme un objet, disons, de vie générale. Enfin, je parle par exemple des Indiens d'Amazonie qui ont quand même une approche double. C'est, la forêt est quand même aussi dangereuse. Il y a des prédateurs, il y a des pièges, il y a des plantes mortelles. Enfin, voilà, il peut vous arriver malheur aussi dans la forêt. Ce qui n'est absolument pas le cas dans les civilisations elfiques telles qu'elles sont vues, disons, dans les yeux des elfes, où la nature a toujours effectivement un côté extrêmement positif.
Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement ? Non ?
Alors, une autre chose que j'ai remarqué aussi, c'est que par rapport à la représentation qu'on a des elfes chez Tolkien et dans le jeu de rôle, ils sont toujours très grands, ils ont toujours les oreilles pointues, et c'est pas du tout comme ça qu'on se les représente dans le folklore, notamment le folklore anglais, même français, par rapport, par exemple, les encyclopédies de Pierre Dubois nous présentent des tout petits elfes. Alors, est-ce que les grands elfes sont une invention de Tolkien, ou est-ce que ce sont les personnes qui ont interprété après ces écrits qui les ont imaginés comme ça ?
Non, la première hypothèse est bien la bonne. En fait, Tolkien a en fait physiquement imaginé une race tout à fait nouvelle. Hein. Il a simplement réutilisé un terme qui provient de la tradition de l'ancienne religion germanique, donc il y a une très ancienne tradition. Et en fait, au cours, disons, de la Renaissance et, disons, de la période classique de la littérature anglaise 16e, 17e, effectivement, le terme fairy elf sont devenus synonymes. Et effectivement, l'exemple que je donne habituellement, c'est que pour un anglais, l'elfe type, c'est la fée clochette. Voilà, je dirais, voilà, c'est ça. She's an elf, c'est une elfe. Donc, effectivement, Tolkien, alors là, je dirais pourquoi. on peut disserter certainement, mais il a décidé en fait de réutiliser un terme et de lui assigner une race qui est extrêmement différente et distincte de la représentation habituelle. Et je dirais c'est peut-être ça qui provoque encore jusqu'à aujourd'hui un certain, disons un certain flou quoi, dans qu'est-ce que c'est un elfe. Effectivement, je dirais que il faudrait effectivement à chaque fois parler de l'elfe de l'elfe traditionnel dans la mythologie germanique, de l'elfe de la littérature classique anglaise, de l'elfe de tel ou tel auteur comme Lord Dunsany ou de l'elfe de Tolkien. Effectivement, on peut dire qu'aujourd'hui l'elfe est devenu un peu comme en science-fiction synonyme de extraterrestre. Enfin, c'est un personnage, il y a des extraterrestres, et bien il y a des elfes suivant chacun des auteurs qui imaginent les choses, mais le grand elfe, beau, immortel et qui ressemble énormément à un humain, c'est véritablement effectivement une création de Tolkien, oui.
La vision folklorique de l'elfe, en fait, je pense qu'il y a un peuple à un moment qui est brièvement rencontré dans Le Seigneur des Anneaux. Je ne me souviens plus de son nom, mais je me souviens de Gan Burigan. Et effectivement, ça correspondrait presque à la vision de l'elfe folklorique, non ?
Gan Burigan, ils sont petits, plutôt laids. Ils vivent aussi en symbiose avec la nature, mais je dirais qu'ils ressemblent plutôt à des espèces de pygmées. Ils sont un peu grands quand même pour la fée clochette. L'elfe ou la fée traditionnelle du conte est plutôt véritablement magique, quoi, disons, alors que les Gan Burigan et le peuple qui vit en symbiose dans la forêt au Rohan, enfin à la frontière entre le Rohan et le Gondor, là sont vraiment des humains, quoi, je dirais. C'est peut-être juste leur côté nature, enfin nature, quoi, qui peut peut-être les rapprocher un petit peu des fées ou des elfes de la littérature traditionnelle anglaise.
Bon, bah, je pense que nous allons nous arrêter là, parce qu'en fait, il y a une autre table ronde qui va commencer maintenant. Donc, merci à Edouard et Thierry d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions, et puis merci à vous d'être venus les écouter. Et ceux qui veulent faire signer leurs exemplaires de l'encyclopédie des elfes peuvent venir là justement.